La radiodiffusion télévision française présente Des idées et des hommes. Une émission de Jean Amrouche.
Au cours de cette émission, vous entendrez un entretien avec Jean Val à propos de Heidegger et Hölderlin. Samedi dernier, vous vous en souvenez peut-être, Jean Val nous a dit que, selon lui, la démarche du philosophe et celle du poète se confondent à l'origine, et que c'est par erreur qu'on les oppose parfois. Toute vraie poésie serait implicitement au moins philosophie, tout philosophe authentique serait poète, même Spinoza, par exemple, dont Goethe disait qu'il était ivre de Dieu, ainsi que nous l'a rappelé Jean Val. Philosophie, c'est vision du monde, poésie, c'est aussi vision du monde, mais si l'on ne doit pas distinguer la vision philosophique du monde de la vision poétique, je me demande quel sens il faudrait donner à l'expression « ivre » dans « ivre de Dieu » et au mot « Dieu ». Je ne sais pas si Jean Val pourra nous répondre à ce sujet. Je voudrais dire aussi que si la poésie est vision du monde ou dévoilement d'une réalité essentielle que, dans l'ordinaire de notre existence, nous ne voyons pas, quel est l'écran qui s'interposerait entre nous et cette réalité essentielle du monde? Quel est le voile qui s'interpose entre le monde et nous, et en quelque sorte entre nous et nous? Est-ce l'apparence? Est-ce la maya? La séparation dont nous souffrons est-elle le résultat, la conséquence de quelque faute originelle lointaine? En tout cas, il est certain que les poètes nous proposent toujours de la vie en poésie, quelque chose de solennel, quelque chose de profondément ordonné, en même temps que de primitif et comme sauvage, et il ne faudrait pas opposer, par exemple, la définition célèbre de Baudelaire, « Là, tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté », de la référence célèbre de Rimbaud, « Je détiens seul la clé de cette parade sauvage ». La parade sauvage dont parle Rimbaud, l'ordre, le luxe, la volupté dont parle Baudelaire ne s'opposeraient qu'en apparence. En tout cas, dans l'ordinaire de nos jours, nous serions donc exclus d'une certaine fête, nous serions exilés d'une sorte de paradis, à la fois perdus au fond de l'origine et pourtant toujours à venir, et qui pourrait être présent. On sent très bien, derrière cette affirmation extrêmement rapide, certaines déclarations inoubliables et inoubliées de l'Évangile sur la présence de Dieu en nous. Jean Val, j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais c'était simplement pour essayer de vous lancer, à vous de jouer.
Vous avez donné une explication extrêmement métaphysique et par moments religieuse du fait devant lequel nous nous trouvons. Vous avez parlé de faute originelle. C'est possible qu'il y ait une faute originelle, mais peut-être pour le moment n'avons-nous pas forcément à aller si loin. Et je me permets de rouvrir le livre de Bergson sur le rire où est contenue la théorie de l'art de Bergson. Là, il nous dit. Il y a le langage, il y a la société. Les deux étant intimement mêlés, le langage étant social, la société étant parlante, qui nous empêche d'être en contact direct avec les choses. De cette théorie de Bergson, nous pouvons remonter facilement à ce que dit Shelley dans la défense qu'il a écrite de la poésie. C'est la même théorie, théorie romantique en un sens, qu'il soutient. Il y a un voile de l'habitude, le poète est celui qui soulève le voile de l'habitude. Maintenant, pourquoi y a-t-il langage, pourquoi y a-t-il société? Est-ce la faute de la faute originelle? Est-ce autre chose? Là, le métaphysicien vous écoutera très volontiers, mais ce n'est peut-être pas la peine de remonter si haut.
Je ne sais pas si c'est la peine ou non de remonter si haut. En tout cas, je ne suis pas du tout métaphysicien. Je m'étais contenté de poser des questions un peu naïves. Mais si vous voulez bien, peut-être qu'il serait utile de partir de quelque chose de tout à fait concret, c'est-à-dire d'un poème et d'un poème de Hölderlin, qui est l'un de ceux où peut-être Hölderlin a exprimé avec le plus de profondeur et avec le plus de mystère et d'évidence à la fois cette idée d'une vie qui serait faite et qui serait créée par le poème, poème qui serait chargé précisément de traduire, d'exprimer cette découverte d'un ordre qui serait l'ordre de la fête par opposition à l'ordre du commun qui serait précisément celui de l'habitude, de l'existence profane en société, vouée à l'utilité. Voici le texte dans la traduction d'Armel Gern. Tout comme un jour de fête, afin de voir son champ, le matin sort un paysan, quand de toute la nuit ardente les éclairs n'ont cessé de tomber, rafraîchissant, et que dans les lointains résonne encore le tonnerre, le fleuve de nouveau s'avance entre ses rives, le sol avec fraîcheur se fait tout verdoyant, et la pluie bienfaisante du ciel ruisselle de la vigne, étincelant. Debout dans la paix du soleil sont les arbres de la futaie. De même ainsi, debout sous un temps favorable sont ceux formés non par un maître seul, mais par la merveilleuse, l'omniprésente en son très doux embrassement, la puissante, la divinement belle nature. Et c'est pourquoi, dans ce temps de l'année où elle semble dormir au ciel ou dans les plantes ou les gens, alors s'endeuille aussi la face des poètes qui semblent être abandonnés. Pourtant, toujours ils sont pressentiments, car elle aussi, dans son repos, n'est que pressentiment. Or, maintenant il fait jour. J'ai patienté et je l'ai vu venir. Oh, que cette voyance, ce sanctuaire soit mon verbe. Celle, en effet, celle même qui est plus vieille que les temps, et par-delà les dieux du soir et de l'Orient existe, la nature, à présent, se réveille au froissement des armes et du haut de l'éther au profond de l'abîme, selon la loi très immuable, comme autrefois, surgit hors du chaos sacré, l'enthousiasme flamboie et se sent neuf, de toutes choses à nouveau, le Créateur. Et tel pour l'homme, un feu s'allume dans son œil s'il entreprend quelque tâche sublime, tel de nouveau les signes, maintenant, et les actes du monde font s'allumer un feu dans l'âme des poètes. Et tout ce qui s'était accompli jusque-là, pourtant à peine ressenti, ne vient que maintenant à l'évidence. Et celle, souriant qui nous avait travaillé notre champ, ainsi que des servantes, elles sont révélées, les très vivantes, ces puissances des dieux. T'inquiéterais-tu d'elles ? Leur esprit souffle dans ce champ que le soleil du jour et que la chaude terre ont libéré, et ces orages qui habitent les airs, et ces autres plus amplement mûris au creux profond du temps, de pire augure et bien plus près de notre intelligence, qui vont errant entre le ciel et la terre, ou bien parmi les peuples. De l'esprit unanime, ce sont les pensées qui viennent s'achever et trouve le repos dans l'âme des poètes. Ah, qu'elles soient promptes à le toucher, cette âme depuis longtemps en contact avec l'infini, et toute frémissante encore du souvenir, afin qu'incendiée par le rayon sacré, elle accomplisse avec bonheur ce fruit né dans l'amour, œuvre des dieux et de l'homme, son hymne qui se fait leur témoin réciproque. Ainsi tomba, les poètes l'ont dit, sur le palais de Sémélé, cette foudre divine, après son vœu de contempler le Dieu dans sa splendeur, lorsque cendre au sein de la mort, elle enfanta, fruit de l'orage, Bacchus le sacré. Au feu du ciel dès lors, ils peuvent s'abreuver maintenant sans péril les enfants de la terre. Mais c'est à nous pourtant, sous les orages de Dieu, ô poète, à nous qu'il appartient de se dresser et tête nue, c'est à nous de saisir de notre propre main jusqu'au rayon du Père et de le tendre ainsi, recélé dans le champ, ce don du ciel, de l'offrir aux nations. Car c'est nous, entre tous, qui sommes de cœur pur ainsi que des enfants, et nos mains ne sont qu'innocence. Venu du Père et pur, l'éclair ne le brûlera point, bien qu'ébranlé profondément, souffrant en compassion les souffrances d'un Dieu, ce cœur en son éternité, qui pourtant reste inébranlable. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce poème. C'est à vous, mon cher ami, poète et philosophe, et qu'il est réservé de dire les plus importantes, je ne dirais peut-être pas les plus lumineuses, ce sont peut-être les plus obscures.
Je vais essayer, et en tout cas, le lumineux et l'obscur s'impliquent l'un l'autre. Nous serons dans le clair-obscur, dans l'ombre et la lumière. Ce qui domine ce poème, c'est l'idée de nature, et c'est en même temps l'idée de surnature. La nature est par elle-même, si on écarte les voiles précisément dont parlaient et Bergson et Shelley que je citais, est dans son essence surnature par rapport à notre nature de tous les jours. Et ce poème nous ouvre ce que, je pense, Hölderlin appellerait l'extraordinaire, ce qui est en dehors de l'ordre. L'atmosphère est une atmosphère d'orage, ou pour transférer cela dans un autre domaine, d'ivresse, ou dans un autre domaine encore, d'amour. Et c'est à partir de là que s'ouvrent et le temps et l'espace. Et c'est pour cela que l'idée de fête a une telle importance, parce que la fête, c'est un temps tout particulier dans un espace consacré. Et cette fête nous ouvre le plus lointain passé et l'avenir. Le temps que nous révèle Hölderlin dans ce poème, c'est d'une part un temps qui va vers sa source, vers son origine, et l'on sait l'importance qu'a l'idée d'origine et chez Hölderlin et chez Heidegger, et c'est un temps qui est pressentiment. Et c'est un temps qui est union entre les deux dans le jour, c'est-à-dire dans le présent. Le présent uni, quand il est le présent du poète, le plus lointain passé, et puis le pressentiment du plus lointain avenir. C'est naturel, quand on a dit cela, de penser à Nietzsche et à son amour du lointain, puisque Nietzsche s'inspirait aussi de Hölderlin.
Vous avez parlé, mon cher ami, d'un espace consacré. Je ne sais pas si je serai tout à fait d'accord avec vous. Car cet espace consacré peut être précisément donné comme toujours consacré, simplement par le rituel et l'application du sacrement. Mais l'on peut parfaitement être dans un espace consacré sans éprouver cet espace comme consacré, c'est-à-dire demeurer séparé de cet ordre du sacré que le sacramentel, le rite, a pour objet d'imposer à la nature, profane, ordinaire. Je crois que, moi, ce qui m'a frappé dans ce poème de Hölderlin, c'est l'idée de miracle. Ce miracle réside dans l'ouverture d'une sorte de disposition qui est permanente dans le poète, mais qui seraient en quelque sorte occultées, empêchées dans l'ordinaire de la vie, et il faut qu'un événement se produise qui permette précisément au poète et à l'homme en général d'assister à l'ouverture de la fête. Mais qui ouvre la fête? Par quel phénomène, justement, sommes-nous introduits dans la fête? Car la nature dont il est question dans le poème, c'est précisément la nature tout ordinaire. Mais il se trouve que cette nature tout ordinaire est découverte nouvelle, elle se révèle nouvelle, et cependant, ce qui se révèle en elle, c'est la présence d'une loi que Hölderlin appelle très immuable. Très immuable. Cette loi très immuable introduit l'ordre de la fête dans le chaos sacré. Et, chose étrange, il faut le flamboiement de l'enthousiasme, c'est-à-dire le chaos sacré, pour que l'on puisse pressentir et voir dans sa réalité cette loi très immuable, c'est-à-dire cet ordre. Or, qu'est-ce que cet ordre? Je crois que cet ordre, c'est celui dans lequel se concilient ou se réconcilient les dieux et l'homme. Et dans la première partie de votre commentaire, que j'ai peut-être abusivement interrompu, ce sont précisément les dieux que vous aviez écartés, alors qu'il me semble que les dieux s'imposent ici beaucoup plus que l'idée de nature et de surnature. La nature est surnature, c'est-à-dire que si on la voit dans sa réalité, selon cet ordre de la loi très immuable présente dans le chaos sacré et qui ne se révèle que par la participation à ce chaos sacré, cette loi très immuable, c'est la présence des dieux. Et c'est le fait que la toute-puissance des dieux qui se manifeste par la foudre n'est pas saisie à ce moment-là par l'homme, disons dans une position d'antagonisme, de révolte, mais dans une position d'acceptation, de connaissance et d'union.
Je serais d'accord avec vous, avec cette réserve que je ne vois pas, cette dualité entre la nature et les dieux, ou plutôt que je crois que la nature est supérieure dans le poème de Hölderlin aux dieux, pour autant que je le comprends. La nature est plus vieille que tout, les dieux sont présents en elle en quelque sorte.
Oui, ce serait vrai si l'on s'en tenait à la première partie du poème. Il est très exact que cette notion d'une nature première, plus vieille que les temps, et qui est par-delà les dieux du soir et de l'Orient, cette nature qui se réveille au froissement des armes, serait en effet la réalité fondamentale, originelle. Et ce lointain dans le temps révolu est en même temps le lointain dans le temps à venir, et dans le présent. Cependant, à la fin de son poème, Hölderlin fait allusion au Père. Venu du Père et pur, dit-il, l'éclair ne le brûlera point. Qu'est-ce alors que cette notion de Père, si ce n'est celle du Créateur de la nature même, et qui serait par conséquent antérieure à lui, à elle, à moins que vous ne considériez que créateur et créature, c'est-à-dire créateur et nature, sont substantiellement confondus.
Oui, je pense que c'est cette dernière branche de l'alternative qui répond à la pensée de Hölderlin, mais je n'en suis pas sûr. Et je pense en même temps à Rimbaud, je mêle Hölderlin et Rimbaud. Je m'offrai au soleil, Dieu du feu. Je pense que Heidegger trouve la révélation dans Hölderlin, nous pouvons la trouver dans Baudelaire ou dans Rimbaud, et que c'est la même révélation. Parce que Heidegger a la pensée, a l'idée, très juste peut-être, que tous les grands philosophes ont dit une seule et unique chose. Eh bien, les grands poètes ont dit une seule et unique chose. Je puis donc illogiquement la trouver dans Rimbaud aussi bien que dans Hölderlin.
Oui, on la trouverait dans tout poète qui se proposerait précisément de donner dans sa poésie non pas une petite chansonnette de divertissement plus ou moins agréable, mais un poème qui fût effectivement vision du monde et vision de l'homme qui s'efforce de se mettre en contact à la fois avec le monde et en lui-même, avec l'être même. Bien que l'idée d'être vous soit une idée presque ennemie, ainsi que vous le rappeliez la semaine dernière à propos de Heidegger. Mais je n'ai pas le sentiment que pour le moment nous avancions beaucoup dans, disons, la description de cet ordre de la fête qui serait l'ordre de la poésie et qui serait en définitive dont la révélation, dont la transmission, dont la mise en communication avec nous serait l'objet même de la poésie et de la philosophie en définitive. Si, comme vous le soutenez, ces deux démarches de l'esprit humain sont beaucoup plus profondément semblables qu'elles ne sont différentes ou opposées.
Il y a là une difficulté, une antinomie, et devant toute idée très importante, on se trouve en face d'une antinomie, c'est que l'idée de fête implique l'idée du temps ordinaire sur le fond duquel se détache la fête. Or, le poète nous introduit dans le monde d'une fête qui devrait être fête perpétuelle, mais qui, si elle était fête perpétuelle, cesserait d'être fête. Alors, c'est à certaines idées de Jaspers qui dit que le transcendant ne peut se révéler que par des antithèses et des cercles vicieux. C'est vers Jaspers que je me retournerai. La définition de la poésie comme fête nous amène à une sorte de contradiction.
Elle nous amènerait à une sorte de contradiction si, en effet, il y avait une opposition rigoureuse entre la fête et la non-fête. Car en réalité, la fête ne me paraît pas du tout être pressentie par le poète comme quelque chose qui disparaît et qui reparaît. C'est dans notre regard qu'est la disparition. C'est en nous que se trouve précisément cette absence et cette séparation. En même temps que nous devons savoir, et c'est le propre même des poètes de nous le révéler, que cette fête dont nous sommes provisoirement exclus existe perpétuellement et même en nous-mêmes. Ce qu'il nous révèle de la nature, ou ce qu'il nous révèle du contact que l'œil intérieur peut avoir avec cette nature, n'est pas du tout quelque chose qui soit sujet à éclipse, c'est quelque chose qui est occulté par quelque chose d'étranger à nous-mêmes, mais notre véritable existence, le mode réel de notre existence, devrait être celui de la fête.
Oui, je n'ai rien à dire contre ce que vous dites, et c'est précisément ce vers quoi je tendais, et cela montre la difficulté du langage. Il faut que nous nous mettions, et là nous retrouvons un autre nom, c'est celui de Nietzsche, qui parle parfois d'une sobre ivresse. Il faut que par l'ivresse, nous allions dans quelque chose qui est au-delà de l'ivresse et de la sobriété. Et que par l'idée de fête, nous allions vers une fête perpétuelle qui ne s'appelle même plus fête. Nous allons au-delà des noms.
Par les noms.
Par les noms, puisque nous sommes dans le domaine de la parole. Oui. Dans le domaine de la parole et de la vision, puisque la poésie, je disais l'autre jour, est vision du monde, mais elle est aussi parole du monde. Et Heidegger insiste avec raison, avec une évidente raison, sur ce point. C'est union de la parole et de la vision.
En somme, la parole, douée de son pouvoir le plus grand, nous introduirait dans un mode de l'existence où la parole n'a plus cours.
Oui.
C'est-à-dire que la parole, à son plus haut période, serait précisément ce qui nie la parole, ce qui la fait en quelque sorte basculer dans le silence.
Oui, la parole nous oriente vers quelque chose qui est au-delà. C'est bien ce que je voulais dire.
Et ce que beaucoup d'autres ont dit avant vous, que la poésie tend au silence, mais je me demande, mon cher ami, si certains de nos auditeurs malicieux ne vont pas juger que précisément nous avons agité beaucoup de paroles pour aboutir au rien. Vous venez d'entendre un entretien avec le philosophe et poète Jean Val à propos de Heidegger et Hölderlin.
La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
C'était Des idées et des hommes par Jean Amrouche qui recevait Jean Val à propos de Heidegger et Hölderlin, deux émissions diffusées la première fois le 30 juin 1956 et 7 juillet 1956.
I'm in the mood for love simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Ooh, is it any wonder that I'm in the mood for love? Why stop to think of whether this little dream might fade? We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid, and if there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Oh yeah. Stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid, and if there's a cloud above, if it should rain, well, let it. But for tonight, forget it. 'Cause I'm in the mood for love. I'm in the mood for love.